Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu
ici, Jabodima,
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Aujourd'hui, le message va s'intituler « Mercenaires, serviteurs ou amis ». Quelle place plaçons-nous devant Dieu ? Il y a un terme qui définit l'obstacle majeur de notre croissance spirituelle dans notre vie. Vous savez ce que c'est ? La satisfaction. Des fois, nous sommes satisfaits. Vous savez, nous sommes tous chrétiens. Nous croyons en Jésus. Nous prions, nous donnons notre dîme, nous donnons notre offrande, nous prêchons l'évangile. Nous sommes nombreux à dire que nous connaissons Dieu. Mais la question, est-ce que vraiment nous connaissons Dieu ? Comme Dieu veut qu'on le connaisse? Ou est-ce que nous sommes comme les Juifs étaient? Ça veut dire qu'ils le connaissaient qu'intellectuellement. C'est ça la vraie question. Vous savez, il y a une chose. Quand j'étudiais la parole cette semaine, j'ai compris quelque chose. La Bible dit que les vrais adorateurs l'adorent en esprit en vérité. Nous, nous sommes venus pour l'adorer en esprit en vérité. Pas, comme disait Franck tout à l'heure, nous ne sommes pas venus pour faire une religion. Parce que Dieu est venu briser la religion. Mais il est venu pour qu'on ait une relation de père à fils, d'ami à ami. Mais il y a une chose que j'ai compris, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes dans trois sortes de catégories. Soit mercenaires, soit serviteurs ou amis de Dieu. Cette semaine, je posais la question à ma femme. Où te places-tu? Ma femme m'a dit, je suis un ami de Dieu. J'ai dit, j'espère pour toi, on verra ça après le culte. Je lui ai dit, j'espère pour toi, je te le souhaite, on verra ça après le culte. Comme elle ne connaît pas ce que j'ai écrit, alors on va voir. Mais ça, c'est une chose. Que Dieu veut qu'on soit ses amis. Amen. Et ça, c'est très important. Alors, nous allons commencer par le premier. La question est laquelle? Dans quelle position nous plaçons-nous? D'abord, avant de savoir où on est, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est. Nous allons d'abord étudier le mercenaire. Nous allons dans Jean 10, 11, du verset 11 au verset 13. Parce que vous savez, nous ne pouvons parler que selon ce que la parole dit. Et ça, c'est très important. Amen. Au verset 11 alors. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup. Abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Voilà. Qu'est-ce que c'est le mercenaire? C'est quand nous sommes nés de nouveau. Vous savez, un mercenaire, c'est celui qui fait quelque chose en attente d'une rémunération, en attente de quelque chose. Il ne se préoccupe pas de son prochain. Comme dit la Bible. La Bible dit quoi? Le mercenaire s'enfuit. Il ne s'est même pas occupé des brebis. Il a dit, moi, je suis chrétien, je viens d'être né de nouveau, alors qu'est-ce que tu veux que je m'occupe des autres? Ce mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à l'église. Il prie selon quand il a envie. Il passe du temps avec Dieu quand il a envie. Il accepte Jésus-Christ comme sauveur et non comme Seigneur. Mais ça, c'est une étape auquel nous, nous passons tous. Pourquoi? Parce que quand nous venons à Christ, nous nous attendons à un pardon complet de Dieu. Nous attendons à être un enfant de Dieu. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils restent mercenaires. Beaucoup de chrétiens ne passent pas assez de temps avec Dieu. Cet homme-là, dans ce verset-là, qui dit, quand le mercenaire s'enfuit, quand le loup est venu, il ne savait pas comment agir, parce qu'il ne passait pas du temps avec Dieu. Lui, c'était un homme qui venait seulement pour recevoir de Dieu. Il ne s'attendait pas à autre chose. Il voulait une seule chose, être sauvé. Il ne se préoccupait pas de son prochain. Des fois, nous, c'est pareil. Nous, notre prochain, il va plus à l'église. Oh, ça fait rien. L'autre semaine, il est pas là, on ne s'inquiète même pas. On ne se soucie même pas du prochain. On ne se soucie même pas de son prochain. Et ça, c'est dangereux. Parce que la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Quand un frère ne vient pas, une semaine, bon, c'est normal. Deux dimanches, trois dimanches, quatre dimanches, c'est dangereux. Parce que c'est là où on trouve notre ressource. Et c'est très important. Mais ce mercenaire ne comprenait pas. Ce mercenaire, lui, venait tous les dimanches, il prenait la bénédiction. Le pasteur prêchait, il écoutait des sermons sur sermons. Il était heureux. Il était rassasié en lui. Il se contentait de cela. Mais moi, je crois que Dieu ne veut pas qu'on se contente de cela. Mais c'est une étape. Je prendrais plutôt le mercenaire comme un enfant qui vient de naître et qui ne sait pas encore reconnaître ce qui est bien et mal. Alors lui, il vient, mais il ne veut pas progresser. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, ils ne veulent jamais grandir. Ils veulent être comme cela, ils veulent recevoir tout de Dieu, mais ils ne veulent pas en payer le prix. Quand je dis payer le prix, c'est passer du temps avec Dieu. Ce n'est pas arrêter le travail, ce n'est pas dire bon, je lâche tout et ça y est. Non, c'est passer du temps avec Dieu. Vous savez, il y a un truc que j'ai compris, c'est que la Bible dit que la chair est faible. La chair est faible. D'accord? La chair est faible. Et nous devons justement combattre. Combattre et combattre. Mais comment? Dans la prière, en passant du temps. Et ce mercenaire-là, il n'avait pas compris cela. Il se disait, mais pourquoi veux-tu que moi je m'occupe de mon prochain? Tu m'as sauvé. Ça me contente. Je ne veux pas autre chose. Pourquoi veux-tu que je grandisse? Je suis bien là dans cet état. Moi, je ne veux pas plus. Je ne veux pas de responsabilité. Je ne veux pas de responsabilité. Je ne veux pas en prendre. Pourquoi? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de prendre responsabilité. Il y a un pasteur, ça suffit. Je ne veux pas servir Dieu. Je veux juste être sauvé. Et beaucoup, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas témoigner. Parce qu'un mercenaire ne témoigne pas. Un mercenaire reste dans son coin et dit, bon, moi j'ai Jésus, j'ai la vie, j'ai la lumière. Et il va avec les autres. Il entend des gens qui sont malades. Il entend que ses amis, ils ont perdu quelqu'un, mais il ne lui parle pas de Dieu. Il ne s'en préoccupe pas. Parce que lui, son intérêt, c'est seulement recevoir. Recevoir et ne pas donner. Et nous devons justement passer ce cap-là, être différents. Nous devons apprendre que ce que Dieu nous donne, c'est pour le donner. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction afin qu'on soit une source de bénédiction. Nous devons être une bénédiction pour les autres. Comment on est une bénédiction? En leur apportant cette lumière qu'il n'y a pas. C'est très important. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens restent mercenaires. Beaucoup de gens ne travaillent que pour un salaire. Ne travaillent que pour être reconnus. Ne travaille que si on lui dit, fais cela. Il le fera que si les gens le regardent. Demain, on va avoir besoin d'aide pour balayer? Oh, il y en aura. Mais il y aura des mercenaires qui viendront, qui diront, oui, moi, je vais le faire. Mais il le fait pourquoi? Pour quel intérêt? Posez-vous cette question, chaque fois que vous faites quelque chose, pourquoi vous le faites? Est-ce que vous le faites parce que vous aimez Dieu? Ou parce que vous attendez une récompense? Et ça, c'est très important. Et souvent, cette attitude est une attitude d'un bébé qui ne veut pas grandir, qui veut toujours rester comme ils sont, qui ne veulent pas apprendre, qui veulent que se contenter que de recevoir et de recevoir. Quand la louange est bien, ils sont heureux. Quand la prédication est bien, ça leur convient. Mais dès qu'on les attaque, dès qu'on dit oui, il faut que tu grandisses, il faut que tu passes à un stade supérieur, ils ne veulent pas. Parce que c'est un bébé. Et ça, c'est le stade que nous sommes tous rentrés dedans. Parce que le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, la seule chose que nous voulions, c'est être sauvés et le pardon complet de nos péchés. C'est normal. C'est normal de passer par cette étape de mercenaire. Et ça, c'est ce que tout chrétien commence. Quand il vient, il est mercenaire, il se préoccupe de lui, il comprend les choses, il essaye un peu de lire la parole de temps en temps, d'obéir pour faire plaisir au pasteur, pour faire plaisir à ses amis qui l'ont conduit vers Dieu. Vous voyez? C'est cela qu'il fait. Il se dit, bon, je vais faire plaisir, comme ça après ils vont me laisser tranquille. Comme ça, quand je suis à la maison, ils vont partir, je vais mettre la Bible dans le tiroir, et je vais dire, voilà, je suis sauvé. Qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit que si je crois en Jésus-Christ, je serai sauvé. Mais Dieu veut plus que cela. Veut plus que nous sauver. Parce qu'il l'a déjà accompli sur la croix. Il veut qu'on ait une relation plus grande. Et c'est sur cette étape-là que nous devons marcher. Chercher encore plus de Dieu, plus de Dieu. Vous savez, moi je crois une chose. Beaucoup de gens n'avancent pas. Pas parce que ils ne peuvent pas avancer. C'est parce qu'ils ne veulent pas. C'est ça qui est important. Vous savez, il y a des événements dans la vie qui sont difficiles. Ça, je le sais. Il y a des événements, des fois, dans la vie qui sont difficiles. Mais un jour, Kenneth Hagin disait une phrase qui est vraie. Que chaque moment difficile auquel je suis passé, chaque épreuve a été pour moi marche-pied pour atteindre plus vers Jésus. Et c'est ça. Tous les événements difficiles de notre vie doivent être un marche-pied, mais ne doivent pas nous écraser. Comprenez bien une chose. Moi, j'ai appris une chose, c'est que jamais Dieu échoue. Mais c'est nous qui faisons échouer Dieu. Par notre façon d'être. Par nos façons de vouloir rester comme un enfant. Quand on vous dit prier, vous ne voulez pas prier. Quand il y a des réunions de prière, les gens ne veulent pas venir. Quand il y a une solution dans leur vie, ils ne veulent pas obéir. Parce qu'ils sont des enfants gâtés. Ils ne veulent que ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas autre chose. Quand le prédicateur attaque sur quelque chose, il dit « Ah, aujourd'hui, il ne devait pas être de bonne humeur, ce pasteur. Ah non, non, il a dû mal se lever. » Parce que les mercenaires n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Vous savez, être ami de Dieu, avoir un ami, la définition d'un ami, c'est pas toujours... L'ami n'est pas toujours là pour dire toujours ce qui est bien pour vous, hein. Sinon, c'est pas un ami. Sinon, c'est pas un ami, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on ferait de lui? Oh, mon ami, t'es beau, t'es plus beau, t'es bien, voilà, t'as pas de défaut, tout. Oh là là, ça serait bien comme ça. Mais ça nous ferait pas avancer. Ça nous ferait, comme je disais tout à l'heure, un terme majeur qui définit l'obstacle de la croissance, la satisfaction. Et je crois que Dieu veut nous faire grandir encore. Et ça, c'est très important. Mais maintenant, la question est, comment est-ce que nous passons de mercenaire à serviteur? Ça, c'est une grande question. Et ça, je me suis posé la question pendant longtemps. J'étais en train d'étudier la parole cette semaine et je regardais. Qu'est-ce que je peux utiliser, Seigneur? Explique-moi quel verset qui peut expliquer comment on peut passer de mercenaire à serviteur. Et Dieu m'a éclairé. Il m'a dit, voilà, je vais te donner un verset. Nous allons tout doucement. Jean 6, verset 26 à 27. Mais je crois qu'il y en a qui connaissent ce verset par cœur. Alors, je vais le raconter. Je vais le lire. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Tout le monde connaît cette histoire, n'est-ce pas? Tout le monde. À un moment donné, Jésus était devant la foule. Il y a eu les miracles des pains, les miracles de la viande, du poisson. Il y a eu toutes choses qui se sont passées. À un moment donné, il s'est dit, bon, maintenant, vous étiez mercenaires. Mais maintenant, moi, je vais vous dire, il est temps de prendre une décision. Cette histoire, à un moment donné, tout le monde connaît cette histoire. Parce que tout le monde se rappelle de ce que la phrase, de ce que Pierre a dit. Jésus a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais où irions-nous? Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Où irions-nous? Et moi, je vous pose la question. Est-ce que vous faites partie de cette foule ou faites partie de ces 12 disciples qui l'ont suivi? Pour le servir. Parce que c'est qu'à ce moment-là, on le servira. Ces gens-là sont arrivés à un moment donné où ils sont arrivés et Dieu voulait éprouver leur foi en disant maintenant, est-ce que tu es prêt maintenant à me suivre? Es-tu vraiment prêt? Es-tu prêt à me suivre? Parce qu'il y avait une foule qui suivait Jésus à cette époque-là. Il y avait une foule. Tout le monde avait entendu parler des miracles. Tout le monde a entendu parler des prodiges. Mais tout le monde avait faim aussi. Parce qu'il faut le suivre dans le désert. Et là, ils ont été rassasiés. Ils ont mangé. Le Seigneur a dit maintenant, il leur a dit une vérité qui est vraie, qui les a peut-être blessés. Mais ça, c'est normal. Parce que Dieu n'est pas là pour seulement nous cajoler. Mais il veut que nous progressions. Et pour progresser, il faut aussi prendre des claques. Comme j'ai dit des fois, il faut se casser les dents pour apprendre ce qu'est la foi. Pour grandir, il faut se casser les dents. Parce que souvent, nous voulons toujours passer par la voie spacieuse. La Bible dit quoi? La porte est étroite pour ceux qui persévéreront. Nous aimons les voies spacieuses, les voies grandes, où tout est ouvert pour nous, le chemin est ouvert, il n'y a plus rien à faire. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça serait trop facile. Sinon, il n'aurait pas envoyé son fils. Amen. Alors voilà, la question est, quelle partie du peuple de Dieu faites-vous partie? Est-ce que vous faites partie de ce peuple? Quand Jésus a dit cette phrase, ils sont tous partis. Ils sont partis. Vous êtes comme Pierre. Vous savez ce que Dieu attendait de ses disciples? C'est qu'ils prennent une décision. Et qu'ils réalisent maintenant, aujourd'hui, je veux te servir, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il y aura demain. Je ne sais pas ce qu'il y aura après-demain. Et après-après-demain, et l'année prochaine, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais je prends une décision de te servir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est important. C'est que Pierre a dit, mais Seigneur, où tu veux qu'on aille? Où tu veux qu'on aille? Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Parce que je pense que s'ils le savaient, je peux vous dire, ils auraient tous fui aussi. Hein. Ah, parce que moi, j'aurais pas voulu prendre des claques comme ils en ont pris. Hein. Ils seraient tous partis. Mais ils ont décidé, non, on reste. Et c'est ça que Dieu veut des fois dans notre vie. Dieu veut que nous changions. Dieu veut que nous rentrons dans une nouvelle dimension. Mais pas une dimension où on croit, mais une dimension de foi. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que nous passions du temps. Dieu veut que nous passions par un stade différent. Et c'est pour ça qu'il faut passer maintenant du bébé à un enfant, à un adolescent. C'est-à-dire à servir Dieu, à vouloir être son serviteur, prêt à tout, prêt à grandir, prêt à vouloir justement aller encore plus loin avec Dieu, à chercher sa volonté, pas la nôtre. Parce que c'est ça qu'ils avaient décidé maintenant. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que c'était Jésus le pain, la manne. Eux, ils voulaient, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient être comme le peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert. Seigneur, envoie-nous le pain. Envoie-nous le pain. Nous voulons manger. Nous voulons que nous nourrir. Nous voulons pas autre chose. Nous voulons pas de ton autorité. Nous voulons seulement nous nourrir, nous rassasier. Parce que nous avons faim. Nous t'avons suivi. Regarde tout ce qu'on a fait. Mais le Seigneur dit non. Vous n'avez pas encore fait suffisamment. Maintenant, suivez-moi sur le chemin. Suivez-moi, parce qu'il y a des choses à faire sur cette terre. Il y a des choses. Ils sont arrivés, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Cet homme parle. Tous ces juifs religieux qui étaient là, tous ces religieux, j'aime pas dire juifs, mais tous ces religieux, ils se sont dit, mais de quoi il parle? Moi, manger son sang, boire son sang, manger son corps, mais de quoi il parle? Ils ne comprenaient pas que c'était lui qui était la vie. Ils ne comprenaient pas ces choses. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, parce qu'ils étaient encore dans la relation mentale, dans la relation charnelle, cette relation que des fois, nous les hommes, on recherche. On dit, comment on fait pour sentir présent de Dieu? Ah, il faut qu'on tremble, il faut qu'on sente nos mains qui chauffent, il faut qu'on soit dans une bonne attitude. Vous savez, il y a des moments où je me lève le matin, j'ai pas envie de prier. Il y a des moments le matin, quand je me lève, j'ai pas envie de lire la Bible. Il n'y a pas un moment où mon envie envie de lire. Parce que ma chair ne veut pas. La Bible dit que la chair est contraire à l'esprit. Mais nous, ce que nous voulons, c'est quand on se lève, ah, j'ai envie de lire la Bible. On va la lire, on va la méditer. Oh tiens, j'ai envie de prier, on va prier 6 heures. Ah, mais on est encore charnel. Il y a encore des choses qui sont contraires à l'esprit. Comprenez bien une chose. Même Jésus a combattu dans le jardin de Gethsémané. Même Jésus a dû prendre un choix, à faire un choix. Et ça, c'est important. Et c'est ce stade-là que nous devons arriver. Après le stade de mercenaire, nous devons grandir dans ce stade de serviteur. Mais quoi? Il faut commencer à vouloir servir Dieu. C'est très très important. À vouloir prier pour les autres. À vouloir témoigner de Jésus. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut vouloir le servir. Mais comment nous faisons pour le servir? Est-ce que nous le faisons n'importe comment? Non. Nous passons du temps dans la parole de Dieu. Nous passons du temps dans la parole de Dieu, dans la prière, dans l'étude de la parole. Vous savez, il y a une chose que j'ai compris. C'est que la parole, c'est celle qui éclaire nos pas et nos sentiers. C'est celle qui nous révèle les choses cachées. Beaucoup de gens veulent connaître Dieu sans lire la parole. Sachez une chose, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Ne vous leurrez pas. Vous savez, vous allez me dire, mais pas Dieu prie. Dites-moi, il n'y a pas des millions et millions de personnes qui prient? Hein? Il y en a des milliers et milliers de personnes qui prient. Toutes les religions sont faites pour prier. Regardez les musulmans. Regardez le bouddhisme. Regardez les témoins de Jéhovah. Tous y prient. Mais pourquoi ils ne connaissent pas le Dieu véritable? Vous êtes posé cette question une fois? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu s'est fait chair par la parole. Dieu s'est fait chair. C'est très important de comprendre cela. C'est la parole qui nous révèle qui est Dieu. Vous savez, un jour, je me suis posé cette question. Il n'y a pas eu longtemps, j'ai eu la réponse. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son fils? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son fils pour chacun de nous? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour se faire connaître. Parce que Dieu voulait une relation. Le jour où il a créé Adam sur cette terre, c'était pour avoir une relation avec lui, afin qu'il le serve. Comprenez bien une chose. Dieu veut chaque jour, veut plus pour vous, veut une relation d'intimité. Comme plus que vous ne le pouvez penser. Un jour, j'écoutais un prédicateur, il disait une histoire. Vous savez, il y avait un enfant, il était là, le pasteur, un petit enfant, il venait, il disait, mais comment on fait pour avoir soif de Dieu? Comment on fait? Et le serviteur disait, écoute, il faut que tu aies faim, il faut que tu aies une faim de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est une faim de Dieu? Il dit, non, il faut que tu aies une faim, lis la parole, tout ça. Et il posait encore des questions sur questions. Un jour, il va à la pêche, et là encore l'enfant, il vient, il dit, Pasteur, comment on fait pour avoir faim de Dieu? Explique-moi comment on fait pour avoir faim de Dieu. Parce que je comprends pas, moi, ce que tu me dis. Je lis la Bible, mais je sens pas cette faim. Vous savez ce qu'il a fait, le serviteur? Il a pris l'enfant, il l'a mis en dessous de l'eau. Il l'a mis en dessous de l'eau, la tête dans l'eau. Après, l'enfant pouvait plus respirer, il l'a sorti. Il lui a dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? T'as voulu me tuer? Tu voulais que j'aille tout de suite près de Dieu? Il a dit, non. Regarde bien. Comme tu cherches, t'as cherché ton souffle dans l'eau, de l'air, Dieu veut pareil que tu le recherches. C'est la même envie, le même désir. Et quand j'ai entendu cette phrase, j'ai dit oui. Nous respirons facilement. Une fois, j'étais dans l'eau et je me rappelle qu'il faut du temps pour faire de l'apnée. Et on cherche de l'air. Et nous devons chercher Dieu de la même manière. Une seule envie, un seul désir. Il n'y a pas de choses différentes. Et c'est ça que Dieu veut que nous rentrions. Et ses serviteurs, ils sont passés par cette étape, ces 12 serviteurs. Ils ont dit oui, nous voulons encore rentrer dans ta présence. Nous voulons encore chercher plus de toi. Parce que Dieu voulait voir leur foi. Dieu voulait prouver. Dire, est-ce que tu es prêt maintenant encore à faire un pas supérieur? Est-ce qu'ils sont prêts? C'est pour ça qu'il les attaquait. Il leur dit, mais vous n'êtes venus que pour manger et boire. Même pas pour voir des miracles. Et dans toute cette histoire, on voit qu'il n'y en a que 12 qui sont restés. Et à partir de ce moment-là, qu'on les appelait serviteurs. Parce qu'à ce moment-là, ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Ils ont dit, mais Seigneur, où irions-nous? Dis-moi, où tu veux que j'aille? Tu es les paroles de la vie. Peu importe les problèmes et difficultés qu'il y aura, mais nous, nous voulons te suivre. Parce que nous avons su, nous avons appris que tu es le Dieu véritable. Nous avons appris qu'à tes côtés, il n'y a que de la réussite. Qu'à tes côtés, il y aura des difficultés, mais tu seras toujours là pour nous en délivrer. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que les difficultés, il n'y en aura pas. N'oubliez pas une chose, on vit sur cette terre. C'est-à-dire qu'il y a des lois sur cette terre. Il y a des choses qui ont été semées, comme la mort, comme les problèmes et les difficultés. Parce que beaucoup de gens veulent enlever les difficultés dans la vie. Mais ne croyez pas cela. Mais nous pouvons les affronter. Parce que Dieu est celui-là qui nous aide. Vous comprenez? Et c'est très important. Mais une question. Est-ce que nous devons demeurer maintenant serviteurs? Parce que aussi le rôle de serviteur est difficile. Parce que le rôle de serviteur peut nous rester justement dans une satisfaction en disant, bon, on est serviteur, on a tout fait, Seigneur. On te cherche, on te connaît. On a étudié la parole de Dieu. On a étudié la parole de Dieu. Mais la question que je vous pose maintenant, quand maintenant vous êtes arrivé à ce stade, quand vous êtes arrivé justement au stade de serviteur, quand vous étudiez la parole, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Est-ce que vous êtes comme certains qui se préparent que pour prêcher, à lire la parole pour préparer des beaux messages, pour toucher les gens? Ou est-ce que vous êtes de ceux qui cherchent la parole pour mieux connaître Jésus-Christ? Moi, je vous pose cette question. Parce que comme j'ai dit, il y a des étapes à franchir. Moi, je ne crois pas que Dieu veut que nous restions serviteurs seulement. Vous savez, hier, je réfléchissais sur cette histoire de l'homme riche. Cet homme riche avait tout fait. Parce qu'il est venu, il a posé une question à Jésus. Il a dit, Seigneur, comment puis-je avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, tu fais ça, tu fais ci. Il a intitulé toutes les choses. Il a dit, mais je le fais. Le Seigneur n'a pas dit qu'il ne le faisait pas. Il a dit, oui, c'est vrai, tu le fais. Mais il lui a encore demandé une autre étape encore à franchir. Imaginez-vous maintenant ce jeune homme riche comme vous, serviteur de Dieu. Il avait tout, n'est-ce pas? Peut-être il se disait, oui, regarde Seigneur, moi j'ai une grande église. Je prie, j'étudie la parole de Dieu, je fais tout Seigneur. Regarde, tu me demandes d'aller voir les pauvres, je vais les voir, je fais tout. Mais là le Seigneur lui avait posé la question, maintenant tout ce que tu as, donne-le. Donne ce que tu as. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que peut-être cet homme riche, il avait fait de son ministère une carrière et non une prière. Vous savez, le ministère, quand je dis ministère, c'est pour un grand mot. Le service que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas une carrière, mais c'est une prière. Tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est pour le rendre gloire. Tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est pour le louer, pour dire que seul lui est capable de le faire. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est par la grâce de Dieu. Comprenez bien cela. C'est pour ça. Et je pense que ce jeune homme riche n'avait pas réfléchi. Parce que qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mais moi, je te rendrai au centuple dans ce siècle présent. Mais lui était parti. Il dit, mais attends, je vais pas tout donner. Regarde tout comment j'ai trimé. Regarde comment j'ai travaillé dur pour avoir une grande œuvre. Regarde comment j'ai travaillé. J'ai cherché ta parole. J'ai étudié. J'ai une église de 1000 membres. Et tu me demandes de tout laisser pour repartir à zéro. Mais je veux pas, Seigneur. Parce que ce serviteur, cet homme riche, était rentré dans la satisfaction. De dire, voilà, j'ai tout acquis, j'ai tout accompli. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut encore plus. Vous savez, nous les hommes, on pense que Dieu veut qu'on gagne le monde. Non. Dieu veut gagner notre cœur. Voilà une grande différence. Là aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une intimité plus grande avec Dieu. Quelle étape nous devons faire? Et cet homme riche ne voulait pas laisser tout. Ne voulait pas recommencer à zéro. D'abord, il n'aurait pas recommencé à zéro. Parce que Dieu ne nous fait jamais recommencer à zéro. Mais nous fait passer des étapes supérieures. Ne nous contentons pas de ce que nous avons. Ne nous contentons pas d'une vie chrétienne banale. D'une vie où on se dit les miracles c'était un temps et on va attendre que tel Osborne arrive. Que des hommes comme ça qui sont loin pour la guérison. Non, Dieu a mis en vous une puissance. Dieu a mis en vous quelque chose qui est différent. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Il n'y a aucune différence entre vous et Paul. Il n'y a aucune différence. Beaucoup de gens se sentent inférieurs parce qu'ils ne passent pas du temps avec Dieu, parce qu'ils ne passent pas du temps dans la parole, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en Christ. Et c'est ça qui fait défaut dans leur vie. Et c'est ça qui fait défaut. Et ce serviteur, il s'était satisfait. Il a dit, bon, maintenant j'ai tout accompli, Seigneur. Que veux-tu que je fasse encore de plus? Mais il n'a pas voulu rentrer encore dans une autre dimension. Vous savez, des fois on peut oublier le but pour lequel nous avons donné notre vie à Dieu. Des fois nous oublions ce but-là. Et ça, c'est important de comprendre. Quand nous arrivons en tant que serviteur, en tant qu'homme qui prie, qui passe du temps avec Dieu, mais nous ne passons plus du temps avec Dieu pour être avec Dieu. Nous lui passons du temps avec Dieu pour dire aux autres que nous prions. Comprenez? La satisfaction est bien une chose qui nous empêche de croître et de croître. C'est ça qui est important. Nous devons encore aller plus loin que cela. Plus loin que ce mot serviteur. Dieu veut que nous soyons son ami. N'est-ce pas? C'est ce que dit la parole. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Parce que tout ce que je dis, tout ce que j'ai fait, je vous le dis. N'est-ce pas? Et c'est ça que Dieu veut qu'on arrive. À ce niveau d'amitié, où on est lié à lui comme un ami, où tout ce que nous faisons, il y a un seul but. C'est que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Et ça, c'est très, très important. Et nous devons arriver justement dans ce but-là. Dans ce but-là. Parce que nous pouvons tout faire sur cette terre. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons gagner le monde entier. Nous pouvons, en prêchant l'évangile. Nous pouvons, mais Dieu veut plus. Dieu veut gagner tout notre cœur. Tout ce que nous avons, c'est pour lui seulement. Comprenez bien une chose. Être ami de Dieu. Vous savez, hier, je regardais les versets de la Bible pour me dire, mais comment tu veux qu'on devienne ami, Seigneur? Quelle est exactement ta définition d'ami? Quelle est ta définition d'un ami? Et je réfléchissais longuement à cela. Et je me rappelais de cette histoire de David et Jonathan. La Bible dit qu'ils étaient liés comme des amis proches. Et il me rappelait encore une autre histoire. Jonathan avait un écuyer à cette époque-là et il combattait. La Bible dit qu'il n'y avait que Saul et Jonathan qui avaient une épée. L'écuyer n'avait pas d'épée. L'écuyer était comme quelqu'un qui avait un bouclier. Il était derrière lui. Il disait, voilà, regarde, tu ne craindras pas. Parce que l'amitié, c'est que tu fais une confiance totale. Peu importe les événements de la vie, tu sais que tu peux compter sur lui. Tu sais qu'il sera toujours à tes côtés, prêt à t'aider, prêt à aller plus loin. Et ça, c'est important de le comprendre. Dieu veut que nous rentrons encore plus. Dieu veut que nous ayons un désir ardent, un désir à chercher encore plus sa face. Et c'est ça, comme cela que nous devons. Vous savez, il y a un homme qui, chaque fois que je lis son histoire, bouleverse ma vie. Il s'appelle Paul. Vous savez, Saul de Tarse, pour certains. Vous savez, cet homme, je crois que dans la Bible, je ne connais pas un homme qui a une révélation de Jésus-Christ comme lui. Et hier, Dieu m'a donné une révélation sur sa vie. Vous savez, Saul, avant qu'il soit disciple de Dieu, avant qu'il soit chrétien, il persécutait l'Église. Mais n'oubliez pas une chose, c'était un érudit de la parole. C'était un homme qui était juif et qui étudiait la parole avec les juifs. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu l'a frappé. Il est devenu aveugle. En 3 jours, il a parlé avec Dieu. Et après, il a retrouvé la vue par Ananias. Dieu a dit à Ananias, va là-bas, j'ai un serviteur, j'ai des choses à faire avec lui. Il aurait pu dire, voilà, ça y est. Paul aurait pu venir et dire, voilà, maintenant, moi j'ai rencontré Dieu, alors qu'est-ce que je veux faire? Je peux venir, je vais venir vous parler de Dieu. Il a dit non. Il s'est retiré dans le désert. Pendant 3 ans, il a cherché à avoir une relation avec Dieu. Parce que sa première relation qu'il avait, elle était religieuse. Il avait appris une religion avec les juifs. Il avait appris une façon de faire, comment se présenter devant Dieu. Mais lui, il a eu qu'une seule chose, une seule envie, un seul désir, c'est connaître Dieu. Quand il a passé du temps, pendant ces 3 ans, à chercher, parce que lui, il savait qu'il n'avait pas marché avec Jésus. Il n'avait pas marché avec Jésus. Peut-être il l'avait rencontré. Ça, je ne peux pas vous le dire. Peut-être il l'avait déjà rencontré dans la rue à Jérusalem. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. C'est qu'il ne le connaissait pas comme les disciples les connaissaient, comme les apôtres. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais chercher. Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est Christ ressuscité. La seule chose qui m'intéresse, c'est quel est cet homme? Quel est cet homme qui a pu sauver? Qui a pu me dire à moi, qui connaît la parole? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai maltraité. En quoi je l'ai maltraité? En quoi? Pourtant, j'ai étudié la Torah, j'ai étudié tous ces versets qui parlaient, mais j'ai pas compris. Parce que lui, David, parce que lui, Paul, il cherchait une seule chose, une relation avec Dieu. Il ne voulait pas entendre parler de lui, il voulait entendre Dieu parler. Vous voyez la différence? Nous, souvent, quand nous ouvrons la Bible, nous ne cherchons pas ce que Dieu veut nous dire. Nous ne cherchons pas ce que Dieu veut nous dire. Nous cherchons ce que notre pensée pense, ce que la parole dit. Nous cherchons pas pour chercher Christ. Vous savez, cette parole de Genèse à Apocalypse ne parle que d'une chose, de Jésus, de son amour, ce qu'il accomplit sur la croix. C'est très important de comprendre. Et ça, c'est ça qui parle de Jésus. Et lui voulait cette relation d'intimité. Il voulait chercher encore plus et encore plus de Jésus. Il voulait comprendre. Il voulait comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Pourquoi il est ressuscité? Il voulait comprendre. Il avait une telle révélation de Dieu. Vous croyez qu'il l'a trouvé où, la révélation? En passant de longues heures dans la prière. Une amitié, ça se cultive. Mais ça ne se cultive pas du jour au lendemain. Vous savez, moi je ne crois pas être arrivé à ce niveau d'amitié. Mais je tends. Comme disait Paul, je tends vers cette perfection. Je ne suis pas parfait, mais je fais abstraction de ce qui est derrière. J'oublie tout ce qui est passé. Ça veut dire quoi? Tous les efforts que j'ai pu faire auparavant ne m'aideront pas. Mais il faut que je fasse encore un pas en plus. Et lui, il oubliait tout ce qui était derrière. Il oubliait qu'hier, elle avait prié une heure. Il dit non, moi je vais encore reprier. Je vais encore chercher plus de Dieu. Je vais encore chercher plus de Dieu. La question que je vous pose, est-ce que vous faites la même chose que lui? Moi, je me suis posé cette question. Et je suis retombé sur la satisfaction. J'ai dit non, il ne faut pas se satisfaire. Nous ne sommes pas des chrétiens pour être satisfaits. Nous devons aller encore plus loin. Nous devons connaître encore plus de Dieu. Chaque jour, nous devons oublier ce que nous avons fait avant. Nous devons oublier que nous avons ramené 5-6 âmes. Non, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Comprenez bien une chose. C'est pas nos œuvres qui nous feront connaître plus de Dieu. C'est le temps que nous avons passé. Un jour, je lisais un livre hier. Et cet homme parlait de David. Ah, David, c'était un homme de Dieu. David, chaque matin, il se levait. Chaque matin. Vous savez, il avait pris l'arche de l'Alliance. Il l'avait mis au coin, pas loin de chez lui, juste en face de sa chambre. Et ils disent que le soleil, où il se levait sur l'arche. Vous comprenez? Le soleil. Et l'ombre de l'arche représentait justement, ça reflétait. Et David, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'agenouillait devant. Et plus le soleil se levait, l'ombre rétrécissait, n'est-ce pas? Lui, il s'approchait. Il s'approchait encore plus de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, la présence de Dieu était dans l'arche de l'Alliance. Et lui, pourquoi il faisait ça? Parce que chaque matin, il voulait se lever dans la présence de Dieu. Chaque matin, il voulait s'approcher. Et chaque fois que l'ombre rétrécissait, il s'approchait encore plus. Et encore plus jusqu'à l'arche. J'imagine les chœurs, les chantres là-bas. Ils devaient dire, mais David, il est fou. Il nous fait lever à 5h du matin pour chanter. Et lui, tu le vois ramper comme ça? Mais lui, il avait compris combien était important la présence de Dieu. Il avait compris que sans la présence de Dieu, il ne pouvait pas être vainqueur. Comprenez bien une chose. Dieu veut que nous rentrions dans une autre dimension. Rentrer dans sa présence. Celle qui change la vie. Celle qui nous change entièrement. Pas une présence intellectuelle, mais une présence de cœur à cœur. D'ami à ami. C'est comme cela que nous devons faire. Vous savez, il y a une autre histoire aussi que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est l'histoire de Ruth. Oh, c'est une belle histoire, ça aussi. Ruth, en hébreu, araméen, ça signifie ami. C'est une femme que ceux qui connaissent marchaient avec Naomi. Naomi, c'était sa belle-mère. Ils étaient à Moab, au pays de Moab. Moab signifie, en hébreu, fornication. C'était une ville païenne. Et Naomi était là-bas. Elle a perdu son mari. Elle avait deux fils. Qui ont épousé Oprah et Ruth. Les deux fils sont morts. Naomi voulait retourner à Juda, dans la ville de Juda, où il y avait la présence de Dieu. Elle a dit à ses deux filles, l'ont accompagnée. Et à un moment donné, Naomi se retourne et dit, laissez-moi partir seul. Vous repartez dans cette ville. Repartez. Vous n'avez pas à rester avec moi. Partez. Et les filles pleuraient. Elle dit, non, on veut rester avec toi. Et les filles pleuraient. Elle continue à marcher. Elle lui redit encore une deuxième fois. Oprah est partie, elle. Elle repartit à Moab. J'ai du mal avec les mots. À Moab. Elle est repartie à Moab. Ruth est restée seule. Vous savez ce qu'elle a dit à un moment donné? Parce que Naomi a encore dit, mais vas-y, rentre dans ton pays. Qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Je ne peux plus enfanter. Je ne pourrai pas te donner un nouveau mari. Regarde l'âge que j'ai. Je ne pourrai pas te donner un mari. Mais rentre. Vous savez ce qu'elle a dit? Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth avait compris que n'importe quel prix, elle devait suivre Naomi, qu'elle ne lâcherait pas. Vous savez ce qu'elle dit? Dans la parole, elle dit que Ruth s'attacha à Naomi, la collait, la restait. Naomi, en hébreu, signifie la grâce. Comprenez bien une chose. Ami, grâce. Ruth marchait dans la grâce de Dieu. Elle voulait être dans la présence de Dieu. Et si vous continuez à aller un peu plus loin, elle trouva un homme qui s'appelle Bouz et se maria. Et vous savez qui c'est, Ruth? C'est devenu la grand-mère du roi David. Comprenez? Et ça, c'est important. Une femme que personne ne connaissait. Une femme veuve, mais elle a persévéré jusqu'au bout. À un moment donné, c'était difficile. Même sa belle-mère lui dit, mais rentre chez toi. Va là-bas. Laisse-moi seul. Laisse-moi aller où il y a le, où je sais qu'il y a Dieu là-bas. Laisse-moi y aller. Mais Ruth n'a pas dit bon, n'a pas fait comme Oprah, ne s'est pas retournée. Elle a dit non, moi je continuerai. Moi je veux continuer. Je veux encore aller plus loin. Je veux encore aller plus loin. Ton Dieu, moi je veux connaître ce Dieu-là que tu connais. Je veux aller dans cette terre où je sais qu'il y a la présence de Dieu. Je sais que là où il y a Dieu, la victoire est là. Et c'est ça qu'elle recherchait. Ruth cherchait vraiment la présence de Dieu. Ruth voulait encore plus de Dieu. Ruth voulait encore plus des choses de Dieu. Et nous, nous devons être pareils. Nous devons être identiques. Mais regardez bien. Quand elle est arrivée sur cette terre, elle n'est pas partie se reposer. Elle est partie glaner. Elle est partie glaner. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré cet homme. Et cet homme a dit une phrase qui est forte. Il a dit, on va y aller, Ruth. Chapitre 2, verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Vous savez, quand nous nous investissons pour Dieu, il y a une récompense. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois que nous rentrons dans une nouvelle dimension, que nous retrouvons dans un nouveau marchepied, il y a quelque chose derrière. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, tu sais, Pat, après chaque épreuve, après chaque porte que tu ouvres, une grande bénédiction t'attend, mais une grande épreuve aussi t'attend. Parce que pour acquérir ces bénédictions, pour croître dans la vie, il y aura des difficultés. Parce que Dieu veut vous éprouver. Pas parce que Dieu ne vous aime pas. Il va vous dire tout ce qu'il a fait sur la croix. Il a tout accompli. Mais nous devons saisir ce temps-là. Vous savez, la chair est contraire à l'esprit. Comprenez bien une chose. Si la chair peut vous faire dormir 24 heures sur 24, elle vous fera dormir. Moi, je peux vous le dire. Parce que des fois, c'est pas comme ça que les paresseux font. Hein. Les paresseux, ils travaillent pas. Hein. Et nous, nous devons travailler. Pas pour le salut. Parce que le salut, on l'a déjà acquis. Mais pour rentrer plus dans la présence de Dieu. Nous devons pas nous satisfaire de ce que nous avons fait hier. Mais être prêt aujourd'hui à rentrer encore dans une autre dimension. Et demain, ne pas être satisfait de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais de vouloir encore aller plus loin. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est à cela que Dieu nous a appelés. À grandir et à croître, dans une plus grande dimension. Vous savez, qui ne voudrait pas être un ami de Dieu? Qui ne voudrait pas que Jésus lui dise, t'es mon ami? Alors, si nous voulons qu'il nous le dise, le jour où on sera là-haut, alors passons du temps avec lui. Passons vraiment du temps. Vous savez, ces 6 semaines, nous avons étudié, approchez-vous de lui. Nous avons étudié la manière de comment faire. Alors, pendant toute cette semaine, j'ai réfléchi sur le message. Ça faisait longtemps que ça me travaillait. Comment, Seigneur, je puisse apporter à ce peuple cette soif de toi, plus grande, Seigneur. Il m'a dit, étudie la parole. Cherche dans la parole. Cherche et cherche. Et quand j'ai cherché, j'ai compris ce que Dieu veut. Dieu veut que nous passions du temps. Du temps dans sa parole, du temps et du temps. Vous savez, ça ne sera pas du jour au lendemain. Nous, on aimerait, parce que nous, on vit maintenant dans tout de suite, mais ça met du temps. Un jour, un homme de Dieu a dit une phrase qui, et il dit vrai. Nous, les chrétiens, nous voulons acheter des bijoux Tiffany chez ED. Nous voulons tout, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit que nous voulons brader la présence de Dieu. Nous voulons juste passer vite fait du temps avec Dieu. Mais ça ne se brade pas, ça. Il y a plein de choses qui sont faits. Il faut payer le prix. Mais quel prix? Pas le prix de tout arrêter. Comprenez bien une chose. Le prix de vouloir passer du temps avec Dieu. Moi, je vous pose la question. Quand le matin vous levez, à qui pensez-vous premier? Est-ce que vous êtes comme David, qui qui allez direct dans sa présence, dans son ombre? Ou est-ce que vous êtes, vous pensez à autre chose? C'est la question que vous vous posez. Posez-vous cette question. À quoi je pense chaque fois que je me lève le matin? Et avant de dormir, à quoi je pense? Est-ce que je vais encore entrer plus dans ta présence? Ou autre chose? Ce n'est pas mal. Comprenez-moi bien. Je ne juge personne. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous amener dans une autre dimension. De vous faire comprendre que tout passera. Tout passera. Mais la présence de Dieu, soit être merveilleux. Des fois, quand on est dans ce lieu, on y goûte. Mais vous voulez pas plus? Moi, des fois, quand je rentre à la maison, la seule chose que j'ai envie, c'est passer du temps avec Dieu. Chaque fois que je rentre dans ma voiture, la seule chose que je fais, c'est prier. C'est la seule chose qui m'intéresse. Si je pourrais arrêter de travailler pour prier, pour lire la parole, je le ferais. Mais je dépends de cette terre. Je dépends, il me faut des revenus. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas encore le temps. Mais nous devons faire de même. Nous devons passer plus de temps. Un jour, un homme de Dieu a dit une phrase. Nous étudions la lumière a jailli, mais nous étudions pas la lumière. Nous étudions ce qui vient derrière tout ça. Non, étudions la lumière, qui est Jésus-Christ. Quand nous cherchons dans la parole de Dieu, cherchons la révélation de Jésus-Christ dans nos vies. Cherchons ce que Jésus-Christ a accompli. La Bible dit que l'Ancien Testament ne parle que de ce que Jésus est venu, ne parle que de la venue du Messie. Les Juifs l'attendaient, se disaient, ouais, il va arriver comme ça, il y aura une cavalerie derrière. Ils ne s'attendaient pas que ce soit un homme, fils d'un charpentier. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils s'attendaient à un grand roi qui arrivera avec des grands sabots, qui écraserait tout. Mais non. Alors changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre façon aussi de voir comment notre communion est avec Dieu. Moi, vous savez, tous les jours, c'est ce que dit la Bible. Éprouvez-vous si vous êtes dans la foi. Tous les jours, quand je viens dans la présence de Dieu, je me remets en question. Je ne peux pas être satisfait de ce que j'ai fait hier ou de ce que j'ai fait avant-hier. Moi, ce que je veux, c'est chaque jour que ma présence, que quand je prie dans la présence de Dieu, soit différente. Je ne peux pas me contenter de ce que j'étais hier. Beaucoup de chrétiens se contentent. Ça fait 10 ans que je suis chrétien. Je sais comment prier. 20 ans, 30 ans. Mais non, Dieu veut pas de cela. Dieu veut une communion plus intense. Dieu n'est pas sur les années. Un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Et 1000 ans est comme un jour. Comprenez bien une chose. Dieu veut plus que cela. Un jour, un homme de Dieu a dit, il a posé une question à un ange. Il lui a dit, pourquoi est-ce que les anges disent toujours Saint, Saint et l'Éternel? Saint et Saint et l'Éternel des armées. Vous savez pourquoi? Parce que l'ange disait, chaque fois que Dieu se tourne, on trouve une nouvelle facette de Dieu. Une nouvelle facette de Dieu. Dieu a tellement de choses pour chacun de vous. Dieu a tellement de choses. Je vais finir par une petite histoire. Elle est courte, mais elle est belle. Il y avait deux hommes qui étaient devant des gens. Il y avait un poète, un très beau poète, un orateur de prestige. Et c'était à son tour, il devait parler. Et justement, il parlait du psaume 23, l'Éternel est mon berger. Vous savez, il avait une telle oration, il savait tellement bien parler. Oh, il était fort oralement. Les gens, quand ils l'ont écouté, ils ont applaudi. Oh là là, ils ont dit, waouh, j'ai jamais vu un homme parler comme cela. L'autre homme, il arrive, il se lève. Il n'avait pas de grande culture, il n'avait pas fait de grandes études. Il arrive, il se met devant l'estrade, il prend le micro et il parle. Et il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fera paître dans de verts pâturages. Et il continue jusqu'au bout. Pas un seul applaudissement. Rien. Vous savez ce qu'il y a eu? Des gens qui pleuraient. Vous savez pourquoi? Parce que la différence entre lui et l'autre homme, c'est que lui connaissait Dieu. Moi, je vous pose la question. Est-ce que nous voulons arriver à ce niveau-là? Quand nous parlons de Jésus, est-ce que nous parlons d'un inconnu ou d'un ami? Dieu nous en demande d'aller plus loin encore et encore. Dieu nous demande d'aller plus loin. Fermons les yeux. Nous allons prier Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, que tu puisses encore te révéler, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Nous voulons, Seigneur, te connaître encore plus et plus, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Nous voulons passer à un stade supérieur, au stade qu'elle, Seigneur, comme David, avait soif de ta présence. Nous voulons, comme Ruth, continuer ce chemin jusqu'à arriver sur cette... Nous voulons te connaître encore plus de toi, que tu puisses encore étendre ta main sur chacun de nous. Réponds aux besoins de chacun. Que quand il rentre dans ta présence, Seigneur, soit un moment privilégié. Et que chaque fois qu'il rentre dans cette présence, qu'il veut encore y entrer encore et y demeurer. Car tu ne nous invites pas seulement pour un moment, Seigneur, mais tu veux que nous demeurons, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Tu veux que nous rentrions encore plus vite dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu veux que nous ayons des forts moments dans ta présence, Seigneur. Je prie pour ce peuple, Père, qui a soif de toi. Je prie pour chacun d'eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses étendre ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Révèle-leur, Seigneur, comme tu as révélé à David, Seigneur. Combien ta présence est grande, Seigneur. Oh Seigneur, étends ta main, Seigneur. Oh, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, Seigneur. Révèle-toi à ton peuple, Seigneur. Parce que c'est toi qui touches. C'est toi qui transformes les vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et je prie, Seigneur, pour cela, Papa. Je prie pour une plus grande présence de toi dans nos vies, Seigneur. Comme dans la mienne, Seigneur. Que je ne sois pas satisfait, Seigneur. Mais que je cherche encore plus, Seigneur. Parce que je veux être ton ami, Seigneur. Comme David était ton ami. Comme Moïse, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comme Paul, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Nous voulons faire abstraction de tout ce que nous avons fait auparavant, Père. Mais nous voulons retourner vers toi. Avoir un regard seul vers toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Étends ta main, Seigneur. Shakabala symboloko, Yesu. Soto lomoko, lishantarabasenta. Nisikoto lobositarabashanta. Soto lomoko, lishitarasenta. Souffle, Saint-Esprit, dans ce lieu, Papa. Souffle encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu es le Dieu qui siège parmi les louanges d'Israël, Papa. Tu connais ton peuple, Père. Tu connais aussi les souffrances, Seigneur. Oh, Seigneur. Étends dans ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Nous voulons t'inviter dans notre maison, dans notre demeure, pour que tu puisses y demeurer, Seigneur, éternellement, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous combien ta présence est grande. Combien ta présence est précieuse pour nos vies, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, afin que tu bénisses ce peuple, Père, et que tu puisses, Seigneur, combler, Seigneur, mon Dieu, moi, les manquements qu'il y a, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. C'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. C'est toi qui remplis un niveau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, parce que tu veux que nous débordions, Seigneur, mon Dieu, moi, de ta présence, Seigneur. Tu veux que nous débordions, Seigneur. Souffle encore, Seigneur. Vous savez, j'ai appris une chose dans la vie. Hier, je lisais l'histoire de Jaïrus. À un moment donné, Jaïrus rencontre Jésus, lui dit « Seigneur, viens dans ma maison, car j'ai besoin de toi, ma fille est malade. » Et il marchait, et à ce moment-là, des gens sont venus. Ils ont accouru, ils ont dit « Laisse le serviteur, ta fille est morte. » Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit « Non, crois seulement. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ne l'a pas laissé là, il l'a accompagné jusqu'à la maison. Vous savez, des fois dans nos vies, nous pouvons aussi être comme cela. Nous pouvons croire que tout est fini pour nous. La mort du ministère, la mort du couple, tout. Mais le Seigneur a dit à Jaïrus, crois. Oui, crois. Parce que moi, je suis venu pour sauver. Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. Comprenez bien cela. Quand Jésus est venu sur cette terre, c'est pour nous apporter la paix. Et ça, c'est important de le comprendre. Et cette histoire me fait penser à une chose. À un moment donné dans ma vie, moi aussi je croyais que tout était fini. J'entendais ces voix qui disaient « Mais laisse le Seigneur, laisse-le, ne l'importune pas, parce que pour toi tout est fini. » Mais le Seigneur m'a dit « Crois seulement. » Je peux vous dire une chose, Dieu peut guérir beaucoup de choses. Dieu peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Il y a des choses dans nos cœurs que moi je suis limité, mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Vous savez, si Jaïrus n'avait pas fait cette décision de croire, je peux vous dire, il n'aurait pas réussi. Quand il est arrivé dans la maison, tous pleuraient. Tous disaient, il est trop tard, elle est morte, il est trop tard, laissez-la. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a enlevé tous ses incrédules de la maison. Il a dit, sortez, laissez-moi. Ils sont sortis. Il y a trois hommes qui sont restés. Jean, Jacques, Pierre, Jairus et sa femme. Il lui a dit un mot, lève-toi. Lève-toi. Vous savez, ça me donne une image, des fois, de notre vie. Des fois, on a l'impression que tout ce qu'on a fait, tous les efforts, toutes nos prières n'ont pas abouti, n'ont pas été exaucées. Mais sachez une chose, Dieu est celui-là qui se lève le dernier. Dieu est celui-là qui se lève même pendant les tempêtes. Dieu est celui-là qui veut vous aider. Vous savez, moi je crois en la bénédiction de Dieu. Je crois en ce que Dieu a fait. Que ceux qui ont des problèmes, qui veulent une prière, qu'ils puissent venir. Parce que moi, je crois en cela. Je crois que Dieu est venu pour justement donner la solution. laissez-moi l'opportunité de pouvoir prier pour vous, que vous puissiez recevoir ce que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont plus d'espérance. Vous savez, et l'espérance, c'est ce qui nous fait avancer. Et nous avons besoin de cela. Comprenez bien une chose. Nous avons vraiment besoin de croire que Dieu est celui qui se lèvera le dernier. Toi qui penses que ton ministère n'a jamais commencé, ou qui penses que Dieu t'a abandonné, sache que Dieu est toujours à tes côtés et que Dieu ne te délaissera pas. Dieu a vu tous les efforts que tu as fait. Dieu voit ce que tu as fait, mais Dieu va encore t'amener plus loin. Que ceux qui croient que leur couple est fini, parce qu'il y a eu des moments très difficiles. Mais sachez une chose, Dieu est celui qui se lève le dernier. Vous savez, moi à un moment donné dans ma vie, il y a eu des difficultés. J'ai dû les affronter. Mais je ne les ai pas affrontées seules. Alors ne les affrontez pas seules. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Nous n'affrontons pas les choses seules. C'est Dieu qui les affronte. Tout ce qui a été accompli sur la croix, il ne l'a pas fait en vain. Comprenez bien une chose. Jairus est arrivé. Les gens lui ont dit, mais n'importune pas le maître, laisse-le dormir, laisse-le. Tu vois pas, on vient de marcher, on a vu des millions de personnes, laisse-le. Non, Jésus ne lui a pas dit ça. C'est les disciples qui l'ont dit ça. Souvent, nous sommes de cette manière. Nous disons, bon, on va pas t'importuner, Seigneur, parce que nous voulons pas te déranger. Sachez une chose, vous ne dérangez jamais Dieu. Dieu est là 24 heures sur 24 pour vous. 24 heures sur 24. Et Dieu veut vous bénir. Quand vous êtes seul et vous pleurez, sachez que Dieu répond à vos prières. Sachez, c'est vrai qu'on ne voit pas l'effet immédiat, mais sachez que Dieu est celui qui exauce ses prières. Parce qu'elle dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez, et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Moi, je peux vous dire que Dieu est celui-là qui ressuscite des mystères. Dieu est celui-là qui élève des hommes, Seigneur. Oh Père, je prie, Seigneur, mon Dieu, pour ce peuple, Papa. Je prie, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ont perdu l'espérance, Seigneur, en ton nom, Père, que tu puisses étendre ta main, Seigneur. Souffle dans leur vie, Seigneur. Ranime la flamme que tu as mis dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Révèle-leur qui ils sont en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu les as appelés à un service, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Tu les as appelés, Seigneur, à faire de grandes choses pour toi, Seigneur. Mais qu'ils prennent conscience, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à prendre conscience, Seigneur, de ce qu'ils sont en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent, Seigneur, quelle espérance qui s'attache à leur appel, Père. Et étends ta main, Seigneur.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.